Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Pour cette séance, nous allons regarder comment compléter les modèles d'évaluation de risque du fonds d'initiative ELSI. La séance va durer 1 heure et nous aurons un bref débat sur les prérequis des processus de due diligence du PNUD et aussi les approches pour les virements d'argent. Mais pourtant, nous allons nous focaliser sur l'évaluation de risque et on va voir pas à pas sur comment compléter le modèle. Quelques annonces pratiques, encore une fois, pour l'interprétation en français, espagnol ou arabe, vous pouvez cliquer sur l'icône d'interprétation qui se trouve en bas de votre écran et vous ne pourrez accéder à l'interprétation que à travers votre ordi. L'audio de votre ordi, c'est ça que vous devez utiliser, sinon ça ne va pas marcher. L'enregistrement du webinaire sera disponible dans notre site Internet dans quelques journées et l'enregistrement sera disponible en anglais, français, espagnol et arabe. Je ne vais pas utiliser les diapos PowerPoint aujourd'hui. Nous allons voir le pas à pas du modèle d'évaluation de risque et aussi le document explicatif. Si jamais vous avez des questions, affichez-les dans le chat au fur et à mesure que nous avançons. Ou sinon, je vais vous demander d'allumer votre micro à la fin de la séance. Nous allons répondre aux questions à ce moment-là. Donc, je vais passer à mon sujet. Je vais vous montrer le site Internet premièrement pour vous montrer où vous allez retrouver toutes les ressources. Ça appartient à la troisième ronde de programmation. Nous avons tous nos modèles et tous nos documents explicatifs là-bas. Donc, vous allez retrouver le modèle ici et ainsi que l'évaluation et les documents explicatifs. Donc, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est le document explicatif. Un autre, fournirait un panorama lié à l'évaluation de risque. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation de risque? Pourquoi est-ce que nous faisons une évaluation de risque? Qui est le responsable d'une évaluation de risque? Donc, pour certaines personnes, le concept de penser à une évaluation de risque est quelque chose d'étrange. Mais je cite un exemple de la vie quotidienne où on m'a dit que les gens ne peuvent pas visionner mon écran. Je vais essayer encore une fois. Maintenant, vous visionnez mon écran? Oui, d'accord. Donc, tous les matins, lorsque nous nous réveillons, nous vérifions les prévisions météo et donc, par exemple, s'il va pleuvoir, on prend un parapluie. Donc, voilà un petit exemple. Mais ça sert à souligner les façons à travers lesquelles on se protège. Donc, dans l'esprit, ce que l'on fait avec le parapluie et le fait de regarder la prévention, c'est une évaluation de risque, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une évaluation de risque? C'est une manière de regarder les problèmes potentiels et les situations potentielles et voir quelle est la probabilité que ces problèmes se passent et si ils seront sérieux. Si il se passe. Donc, l'évaluation de risque, ça passe par une liste de toutes les choses qui peuvent mal se passer avec un projet. Donc, on aussi doit regarder la probabilité du problème et qu'est-ce qu'il faut faire si ce problème se présente. Donc, une fois que l'on a identifié le risque, on peut prendre des pas pour éviter les risques ou réduire l'impact de ces risques s'ils se présentent en fait. Donc, c'est une manière de préparer, de gérer les obstacles, les challenges qui peuvent se présenter lorsque l'on met en place ou travaille sur un projet. Dans d'autres rondes, je me suis demandé, je vous ai demandé pourquoi est-ce que l'on fait une évaluation d'un risque? Il y a une série de choses qui peuvent nous aider au moment de faire une évaluation d'un risque. On doit penser aux choses qui peuvent avoir un impact sur notre projet. Et cela peut nous aider avec la gestion générale du projet à nous assurer que l'on respecte la frise chronologique, que l'on ne se, les choses ne se déraillent pas, ne sort pas du budget, etc. Donc, de cette manière, on peut anticiper des problèmes, des soucis avant qu'ils ne se passent. Et c'est une évaluation qui nous permet de prévoir les obstacles, les incertitudes qui peuvent affecter la mise en place du projet et par conséquence son succès. Le fait de mener une évaluation de risque nous permet de planifier de manière préalable, elle nous aide à créer des stratégies ou bien de gérer ce risque avant que ce risque ne devienne des problèmes sérieux. L'évaluation d'un risque nous aide aussi à utiliser la ressource de manière intelligente. Donc, si on comprend, si on anticipe quelques risques potentiels au projet, on pourra assigner ou allouer les ressources pour affecter les ressources pour gérer, bien gérer ces risques. Et le fait d'adresser le risque de manière préalable nous aidera à minimiser l'impact de ce risque-là sur la frise chronologique, sur le budget. Et encore une fois, je reviens sur le succès et la mise en place du projet en général. Depuis la perspective d'un bailleur de fonds, depuis la perspective de la gestion de fonds, le fait d'avoir une évaluation de risque qui a été réfléchi, planifié et puis que les mesures ont bien été mises en place, cela nous aidera à nous assurer d'avoir la confiance des parties prenantes, donc non seulement depuis la perspective des bailleurs de fonds, mais aussi au nom des partenaires d'implémentation aussi. Ce que l'évaluation fait, ce que l'on a, ce que ça montre, c'est que l'on a considéré les risques, que l'on a des plans pour pour les adresser et cela crée de la confiance au sein des parties prenantes, au sein des membres de l'équipe. Donc, en essence, le fait de réaliser une évaluation de risque de projet, ça passe pour être proactif, préparé et pour s'assurer que le projet est mieux équipé pour gérer les défis qui peuvent se présenter lors de la gestion d'un projet, de la réalisation d'un projet. La section suivante, c'est qui devrait faire une évaluation de risque? Lorsque je passerai au document d'explicatif, il y a une colonne qui décrit la responsabilité générale pour chacun des risques qui a été identifié. Donc, est-ce que vous pouvez vous silencer, mettez-vous en silence et éteignez votre écran vidéo, s'il vous plaît, pour pouvoir continuer sans interruption. Merci. Donc, si on pense à qui devrait faire l'évaluation de risque, j'aimerais prendre une petite pause pendant quelques secondes pour que vous puissiez y réfléchir. Donc, dans votre projet, qui devrait être le responsable de la responsabilité, pour ainsi le dire, générale, de faire l'évaluation de risque et qui devrait soutenir cette évaluation de risque, à votre avis? Donc, une évaluation des risques devrait Engagez les apports de toutes vos parties prenantes et surtout celles qui ont une expertise pertinente, des perspectives pertinentes. Donc, vous devrez engager vos partenaires de mise en place. Vous devrez également engager les personnes appartenant à différents domaines de votre projet, et par exemple des gens avec l'expertise de suivi, d'évaluation, de rapport, de communication, que ce soit que l'on regarde un projet qui inclut la formation, par exemple. Donc, vous devrez engager les gens qui ont de l'expertise sur le design, la réalisation et la fourniture de la formation, depuis leur perspective, quels seraient les possibles risques, les soucis qui pourraient avoir un impact sur la fourniture, le design d'une formation. Si on revient sur le haut niveau, le décor général, donc votre projet de LSI, que ce soit un projet de financement flexible ou MOIP, le responsable du financement de projet devrait avoir la responsabilité générale de la réalisation et le design de votre évaluation de risque. Donc, c'est eux qui seront les responsables de liderer le processus et ils se assureront que tous les pas nécessaires sont pris pour identifier, analyser et mitiguer les risques. Et comme j'ai déjà dit, pour tous les projets LSI ou EIF, le projet doit être lidéré par le manager, le responsable du projet. Vous n'êtes pas seul, donc vous devez engager les membres de l'équipe. Donc, les membres qui sont engagés dans le planning du projet doivent contribuer à l'identification des risques potentiels dans les domaines, leur domaine d'expertise. Et cela inclut aussi les experts au sujet spécifique qui ont des connaissances spécifiques, des expériences liées aux aspects spécifiques de votre projet. Cela peut inclure, par exemple, les gens avec des requis, de prérequis techniques qui sont responsables aussi de l'observance régulatoire. Dans le domaine militaire, les projets, les personnels en uniforme peuvent être bien conscients de la réalisation d'une évaluation de risque. Ça fait partie du projet de planning d'effectuer des opérations ou des activités de formation en matière de risque. Et les parties prenantes, dernièrement, toutes les parties prenantes, y compris les partenaires de mise en place qui pourraient être impactés ou affectés par les projets, ils devraient avoir l'opportunité de fournir leurs apport en matière de résultats de projet. Le fait d'engager un groupe divers de parties prenantes, y compris les femmes, dans votre évaluation de projet est quelque chose de fondamental parce que cela assure d'avoir une analyse exhaustive. Et cela va conduire à une stratégie ou aux stratégies plus efficaces en matière de gestion de risque. Ensuite, je vais parler du quand faire une évaluation de risque. Donc, une évaluation de risque pour n'importe quel projet devrait être réalisée aux plusieurs étapes à travers votre cycle de projet. Cela va assurer que les risques potentiels soient identifiés, analysés et adressés de manière efficace. Donc, il y a une série de phases, d'étapes. Je vais parler de l'étape de commencement, l'étape de planning à travers l'implémentation du projet, et aussi les jalons clés où vous pouvez changer la portée du projet et aussi la fermeture du projet. Donc, durant votre phase de commencement, vous devez déjà penser aux risques impliqués dans le projet. Vous devez réaliser une évaluation préliminaire des risques durant cette étape du projet. Cela vous aidera à identifier les risques précoces et surtout les risques clés qui peuvent vraiment impacter ou affecter votre projet. Ensuite, cela va vous permettre d'identifier la viabilité planifiabilité des activités, le planning des activités. Donc, dans le cadre de votre candidature, au fond, dans votre lettre d'intérêt, nous vous demandons de considérer quels sont les risques à haut niveau qui pourraient se présenter. Donc, vous avez déjà commencé à identifier le risque entraîné dans votre projet. Maintenant que nous passons à la phase ou à l'étape de planning détaillé du projet, vous devez vraiment faire attention, vous devez penser surtout les risques entraînés par votre projet. Et encore une fois, une évaluation des risques est un document vivant. Et les risques changent, des nouveaux risques peuvent se présenter et peut-être que vous avez déjà mitigé, vous avez déjà inclus cette activité pour mitiger un certain risque dans votre projet.
Cependant, il est fort important de faire un suivi des risques au cours de la mise en place ou l'exécution de votre projet. Et l'évaluation de risques tout au cours de votre projet vous permet d'identifier les coûts ou les changements qui ont eu un impact sur tous les projets soutenus par le fonds. Cela peut vous aider à prendre des mesures ou des actions pour corriger et pour reprendre le chemin correct. Vous allez aussi passer en revue les risques de votre projet et les jalons plus importants. Peut-être vous avez lancé des activités de recrutement et peut-être ça, c'est un jalon très important de votre projet. Et vous êtes en train de comprendre, de commencer à prendre quelques actions. De cette manière, avec cette évaluation, vous pouvez passer en revue les risques après le jalon. Et lorsque l'activité se déroule, les partenaires qui ont fait la mise en place doivent comprendre s'il y a des risques clés qui ont été identifiés. Ensuite, à la fin de votre projet et pour tous les projets, nous exigeons un rapport de clôture qui s'appelle PCR, qui doit être complété pour le projet. Comme partie de notre processus d'apprentissage, nous demandons en général de passer en revue les risques clés identifiés au cours de votre projet et comment vous les avez abordés et de les mentionner en tant que insights ou conclusions de votre projet. Cela vous aide en tant qu'organisation, renforce l'apprentissage et aussi peut aider à informer les pratiques de gestion de projet au futur. En somme, dans cette partie de la séance, nous avons parlé de l'intégration des activités d'évaluation de risque dans toutes les étapes de votre projet. De cette manière, votre équipe peut identifier de manière proactive et gérer les risques pour vous aider à avoir un projet plus réussi et de minimiser les impacts négatifs potentiels. Finalement, dans cette section, c'est fort important de souligner qu'une évaluation de risque n'est pas un processus indépendant. Mon expérience dans les forces militaires de l'Australie, il y a plusieurs années, lorsque nous avons commencé à le faire, nous l'avons fait. Nous avons dû décider si nous allions le faire de manière indépendante ou bien si nous allions l'intégrer dans tous les processus du projet. Et nous nous sommes rendus compte qu'il ne fallait pas le faire de manière isolée ou indépendante. On fallait l'intégrer et de vraiment faire en sorte qu'il fasse partie de toutes les étapes du projet, de faire des changements nécessaires où les risques ont un impact sur le projet. Maintenant, je vais vous décrire le modèle d'évaluation de risque. Nous avons une introduction et j'ai essayé de écrire ces informations pour l'introduction. Et dans l'explication, on peut voir les différentes étapes et les risques clés que vous allez rencontrer, les risques contextuels, il y a des risques de gouvernance et des sauvegardes, il y a quelques risques liés à l'aspect opérationnel, à l'aspect du projet, et il y a aussi des risques spécifiques qui sont liés à une opération MOWIP. Et il y a également des risques liés spécifiquement à la construction. Nous l'avons séparé de cette manière-là et on a créé une liste avec les risques potentiels de chaque partie. Je voudrais souligner ici que pas toutes les listes qui sont détaillées ici dans la planification auront un impact sur tous les projets. Cependant, ces risques doivent être considérés et il faut considérer comment ils peuvent affecter la planification de notre projet. La prochaine section vous offre des informations par rapport à comment compléter le modèle ou le template. C'est une explication avec quelques conseils ici, surtout en matière de collaboration. Nous sommes ravis de lire des explications claires et simples. Nous essayons également d'éviter le langage trop technique et en simplifiant le type de langue qu'on utilise, cela nous permet de mieux comprendre. Tout le monde peut mieux comprendre ce qu'on veut exprimer et on peut obtenir un meilleur résultat à la fin du processus. Et nous vous demandons de passer en revue les risques clés de manière régulière, surtout si on veut minimiser l'impact. On va passer maintenant à l'évaluation de risque, concrètement, le modèle. Donc, tout d'abord, je sais que c'est facile de se sentir un peu surpassé par cela, mais nous avons utilisé des informations standards et les catégories standards pour créer cette liste. Et ces informations viennent de plusieurs agences de l'ONU et c'est développé sur la base des expériences avec plusieurs projets. Je pense que ça fait beaucoup de sens parce que j'ai travaillé dans ce domaine depuis longtemps, mais ce n'est pas seulement les agences de l'ONU, ce sont d'autres institutions. Et en utilisant ces catégories, on peut penser aux risques qui peuvent apparaître dans chaque catégorie. Je vais essayer de l'élargir le plus que possible dans la ligne 5. Nous avons la catégorie du risque dans la colonne C et nous avons quelques risques standardisés et nous vous demandons de ne pas changer ces catégories déterminées. Cependant, s'il y a un risque qui est vraiment très singulier et très particulier de votre projet et qui n'est pas reflété dans cette liste, s'il vous plaît, veuillez l'inclure. Et vous pouvez l'inclure sur une catégorie ou bien il y a une section à la fin qui s'appelle catégorie 6 où vous pouvez inclure ce risque spécifique. Pardon, pas catégorie 6, catégorie 7. Mais sur la base de mon expérience, je crois que même s'il est spécifique de votre projet, en général, on peut l'inclure dans ces catégories prédéterminées. Donc, nous avons ici la catégorie du risque et nous passons au risque concrètement. Ici, nous vous demandons d'expliquer quels sont les risques spécifiques dans ces catégories. Par exemple, vous avez une liste ici à gauche, les risques contextuels ou les risques du contexte. Ils sont liés au contexte plus élargi de l'environnement où les projets existent. Par exemple, nous avons inclus, par exemple, les élections. Nous savons, à partir de notre expérience, et nous savons qu'il y a des élections dans plus de 60 pays qui vont traverser des élections régionales ou bien nationales. Et dans notre expérience, la réalisation d'un processus électoral a généré des problèmes à l'heure de mettre en place le projet parce que les institutions de sécurité sont dédiées à ces processus et parfois le personnel de gestion de la sécurité doit prioriser les élections. Donc, il ne participe plus du projet durant quelques mois et ils doivent se concentrer sur la réalisation des élections. Et si il y a des situations de violence pendant les élections, les priorités de sécurité sont là-dessus. Donc, s'il y a des élections dans votre pays, pardon, identifiez quelles sont les mesures pour atténuer ces risques. Par exemple, peut-être vous avez un personnel civil qui travaille au ministère de la Défense ou de l'Intérieur qui peut-être peut soutenir le manager du projet et la gestion du projet en général pour continuer à surveiller la mise en place de ces projets si il y a des élections au pays. Nous savons bien qu'il y a des risques comme la COVID-19, par exemple. Il faut identifier ces risques spécifiques ici qui pourraient affecter votre projet. Et dans cette colonne-là, et pour parler de ce risque, parler de la probabilité de ce risque dans trois niveaux, pas très probable, probable ou très probable. Et puis, vous devez décrire comment ça pourrait affecter la mise en place de votre projet, le cas échéant. Dans cette colonne-ci, les mesures et les actions d'atténuation. Ici, vous allez indiquer comment vous pouvez atténuer ce type de risque. La colonne des conséquences qui est ici, je me rends compte que nous avons un document qui est plus à jour. Je m'excuse. Ce n'est pas la dernière version. Permettez-moi de vous montrer la dernière version. Nous avons fait quelques changements, petits changements dans les titres des colonnes. Je m'excuse, je suis vraiment désolée. Maintenant, vous êtes en train de voir la version correcte. Ici, dans probabilité, nous avons élevé, moyenne et bas. Donc, le risque et la probabilité de que cela se passe. Et ça, c'est la probabilité ici. La conséquence vous exige de choisir d'une liste d'options et de choisir bas, moyen ou haut. Ici, vous devez identifier des démarches pratiques ou des activités pour réduire la possibilité d'avoir un risque, de l'existence d'un risque en particulier. Et ici, vous devez écrire les pas à suivre pour l'atteindre. Et pour atténuer, vous avez une date limite. Ici, c'est la date limite de cette action en particulier. Et la suivante, c'est le propriétaire de cette colonne. Donc, le risque, la probabilité, la conséquence de ce risque. Et dans les mesures d'atténuation, identifiez des actions que vous allez prendre si vous avez identifié qu'il s'agit d'un risque élevé pour votre projet.
Aussi, qui a la responsabilité d'être l'agent de mitigation ou le responsable de mitigation d'action. Donc, voilà les colonnes qui se trouvent dans la partie supérieure. Je ne vais pas me pencher dans les détails sur ces risques-là parce que ça devrait être une séance spécifique, mais ce que nous avons fait, c'est de faire une liste des risques qui ont affecté une série de projets que nous avons déjà effectués et surtout aussi la gestion des projets au sein du fonds et d'autres projets semblables. Il y a un couple de risques que j'aimerais souligner pour que nous puissions nous focaliser sur ces risques-là. J'ai fourni un exemple pour chacun de ces risques-là, par exemple, harcèlement sexuel et exploitation sexuelle, abus sexuel dans une organisation. Nous savons que le harcèlement et l'exploitation, les abus sexuels se passent dans toutes les organisations de sécurité, dans toutes les institutions, dans tous les pays au niveau global. Je crois que c'est en fait une supposition fausse de supposer que s'il n'y a pas une dénonce sur le harcèlement sexuel, que ce harcèlement sexuel, ça, là, ne se passe pas. Ça serait faux d'en croire. Donc, vous devrez, par exemple, considérer de façon dans votre organisation, que ce soit votre organisation militaire, vos missions, par exemple, identifier, par exemple, comment on devrait mitiger ce risque. Par exemple, la probabilité que ce risque se passe est intermédiaire, les conséquences sont intermédiaires et on pourrait considérer de façon de fournir des séances de formation contre l'exploitation sexuelle pour éviter la SEA, l'exploitation sexuelle et le harcèlement sexuel dans le lieu de travail. Et il y a une série d'activités que vous pouvez inclure dans votre plan de projet et votre projet peut décider que cette activité soit conçue et mise en place vers la fin de décembre 2024. Voilà la date butoir. Et la responsabilité de tout cela pourrait être le responsable de votre commande de formation militaire. Par exemple, cela peut avoir un focus spécial sur les forces de pacification. Cela peut se passer dans les centres de pacification, par exemple, des formations pour la pacification. Donc, nous savons qu'il y a différents programmes déjà disponibles en matière de harcèlement sexuel. Il y a des pays qui ont déjà mis en place de tels programmes. Donc, vous pouvez, par exemple, passer en revue cette formation pour vous assurer que ce soit qu'elle soit mise à jour et qu'elle soit observante des exigences de l'ONU, par exemple. Et il faut aussi, par exemple, s'assurer que les membres de la police ou des forces armées s'y engagent pour réduire les incidences de harcèlement sexuel dans votre organisation. Si on passe au manque de transparence ou au manque de système de redevabilité parmi les partenaires de mise en place. Par exemple, vous pouvez, par exemple, travailler avec un partenaire de mise en place et à travers la réalisation d'une évaluation de capacité. Si vous avez identifié que votre partenaire n'a pas de mécanisme de rapport financier adéquat, ou bien peut-être que vous avez déjà un protocole d'accord avec ce partenaire-là, mais vous constatez qu'il y a un manque de redevabilité au sein de ce partenaire-là. Donc peut-être que vous allez vous voir créer un accord de partenariat ou bien mettre à jour votre protocole d'accord pour être clair sur les rôles, les responsabilités, les attentes par rapport à la transparence et à la redevabilité. Peut-être que vous voudrez aussi, en fait, vous aurez besoin de vous assurer que le protocole d'accord soit complété et passé en revue par le département légal avant la signature. Et sans aucun doute, c'est un protocole qui devra être complété avant le transfert ou le virement d'argent, de fonds. Et bien sûr, le responsable serait le chef de projet, le project manager. Donc, voilà quelques exemples pour ce modèle en particulier. Ensuite, nous avons des risques contextuels qui peuvent avoir différents impacts, par exemple les risques au niveau du pays, les catastrophes naturelles, les risques économiques, y compris par exemple l'inflation, la hausse de coûts, etc. Et aussi d'autres risques qui peuvent se présenter, tels qu'une pandémie, des manifs. Et nous, par exemple, incluons ici les confinements dirigés ou ordonnés par le gouvernement. On espère que on n'aura pas d'autres pandémies dans l'avenir, mais il faut en tenir compte. Et ensuite, nous avons les sauvegardes et les risques de sauvegarde et de gouvernance. Nous devons nous assurer qu'il y a une observance des normes éthiques, des prérequis légaux, pardon, et des prérequis de gouvernance pour nous assurer que le bien-être des personnes affectées par le projet soit protégé et que la réputation de l'institution et les acteurs engagés dans le projet soient aussi protégés. Ensuite, on passe au risque de projet ou du projet. Donc, voilà les risques qui sont liés à la gestion concrète du projet. Ils peuvent être dus à une capacité inadéquate ou aux compétences manquantes, ou peut-être le gouvernement ou les TPCC. Cela peut être lié au manque de compétences de la part de partenaires de mise en place. Cela peut entraîner l'incapacité du récipiendaire de, en fait, mettre en place de projets et de fournir les résultats selon la documentation signée du projet et selon le cadre de suivi et de résultats et les frises chronologiques et les dates butoirs s'étendent. Il y a donc des fonds qui s'avèrent inadéquats pour compléter le projet, car le projet s'est attendu de 6 mois ou de 12 mois de plus. Donc, il faut considérer les salaires et supplémentaires pour les chefs de projet et pour d'autres. Et je parle depuis l'expérience de nos premières et deuxièmes rondes du projet. Donc, nous devons considérer tous ces risques liés à la gestion d'un projet. Les risques opératifs. Vous devez considérer des choses telles que les délais dans les achats des ressources dont vous avez besoin pour votre projet, les moments pour rédiger des termes de référence pour des capacités spécialisées ou bien pour incorporer en tierce. Et un entrepreneur, par exemple, et comment vous allez gérer les délais, par exemple, entre une entité de coordination gouvernementale et les agences administratives de l'ONU. Donc, voilà des exemples que je cite à partir de l'expérience que nous avons acquise lors des premières et deuxièmes rondes. Donc, voilà quelques aspects liés à la gestion d'informations et des connaissances en de risque que nous avons trouvés au sein du projet. C'est qu'il y a un renouvel constant et un remaniement constant du personnel de projet et les projets n'ont pas eu une bonne gestion ou bien une gestion solide des informations. Ça prend un peu un couple de mois pour que le nouveau chef de projet comprenne le projet et pour qu'il retrouve la documentation du projet, que ce soit de fiches ou des registres d'entretien pour pouvoir recommencer ce projet. Et il y a aussi des risques spécifiques. Là où il y a des projets qui auront à mettre en place des activités liées à la construction, nous avons souligné quelques risques ici. Il faut avoir une évaluation des risques spécifiques liés à la construction, rédigé par l'entreprise de construction et tous les entrepreneurs qui seront engagés et donc pour tous les projets qui entraîneront des activités de construction, nous en allons parler en détail avec ces projets spécifiques qui entraîneront aussi des financements flexibles. Et si on passe à la catégorie 7, il s'agit d'autres risques. Donc, sans aucun doute, nous allons vous aider à compléter cette fiche, mais il est important que vous commenciez à considérer les risques de votre projet à chaque étape pour chaque activité. Maintenant, je vais m'arrêter. Et je sais que c'est une séance remplie d'informations, mais maintenant je vais m'arrêter et je vais ouvrir la séance aux questions des participants. N'hésitez pas à afficher votre message dans les chats. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Leopoldo, Leopoldo, vous avez la parole. Bonjour. Je m'appelle Leopoldo Tenorio, je suis de Sedena, Mexique. Sur la base de votre expérience, pourrez-vous partager un format de minimisation de risques pour les constructions en bénéfice des femmes en uniforme pour l'avoir comme référence pour notre projet? Merci. Merci de votre question, Leopoldo. Donc, par rapport au risque constructif de la filière de la construction, en tant que fonds, nous n'avons pas de modèle pour un projet de construction. Nous ne sommes pas d'experts d'ingénierie ou de construction, donc nous n'avons pas l'expertise nécessaire au sein du secrétariat. Donc nous dépendons sur l'aspect suivant. Si le fonds décide de soutenir un projet de construction, l'expertise d'ingénierie sera inclue dans le projet. Et nous serons pleinement responsables. Pardon, cette ingénierie de construction sera complètement responsable pour s'assurer lorsque une entreprise est embauchée pour construire un projet d'infrastructure ou améliorer l'infrastructure existante. Donc, une évaluation complète de risques devra être complétée dans cette activité de construction. Donc, cela est différent de la manière où nous avons soutenu le projet de construction dans la première et deuxième ronde de programmation. Et là, et si. S'il y a des projets de construction, nous allons les passer en revue en détail avec chacun de ces projets individuels. Donc, prévenez-moi si j'ai bien répondu à votre question.
Oui, mais on voudrait savoir s'il y a déjà un projet approuvé qui a eu du succès et qui est lié à la construction pour l'utiliser en tant que référence ou en tant qu'exemple. Je crois que cette discussion est plus adéquate pour la réunion personnelle et on peut discuter les points de comparaison parce que tous les projets sont différents et le secrétariat a appris plusieurs leçons. Nous avons changé plusieurs fois notre démarche, mais ce que je peux dire à ce point-là, c'est que lorsque je regarde le cadre de suivi et évaluation de la EIF et pour comprendre l'impact sur notre cadre du soutien des projets d'infrastructure et pour identifier pour ces projets ces aspects dans ces projets, nous a amené à l'augmentation du nombre de femmes déployées ou bien une augmentation du groupe de femmes. Mais nous n'avons pas les preuves encore. Donc, nous sommes en train de réévaluer la démarche que nous utilisons pour soutenir les projets, y compris les projets d'infrastructure. Nous sommes en train aussi de considérer les contributions des pays au maintien de la paix et toutes ces activités qui peuvent être plus favorables ou bien qui peuvent s'adresser aux barrières et aux obstacles identifiés par les pays. Donc, nous avons plusieurs candidature dans notre dans les par rapport au projet d'infrastructure et nous allons travailler avec les pays pour passer en revue les soumissions et voir s'il y a peut-être d'autres alternatives pour soutenir ces pays, pour vraiment aborder les autres obstacles, par exemple les restrictions, des ménages. Et d'autres activités. Donc, on va travailler avec les pays individuellement et peut-être on peut le faire avec vous dans la première réunion individuelle, Leopoldo. Merci. Bon, je vais voir s'il y a peut-être d'autres questions. Peut-être sur le chat. Pas de questions? Bon. Donc maintenant, je voudrais donner la parole à deux de mes collègues qui viennent de nous rejoindre au secrétariat du PNUD et tout simplement pour qu'ils puissent partager leur expérience à partir des risques élevés qui ont affecté les projets et quelles ont été les mesures d'atténuation et celles qu'ils recommandent pour aborder ces risques. Un risque n'est jamais atténué complètement. Oui, c'est impossible de le faire. C'est une leçon à tirer. On peut essayer d'identifier les manières de réduire la probabilité d'un risque, parce que le risque comme ça devient plus acceptable et on peut garantir le succès du projet. Donc, peut-être je peux donner la parole maintenant. Allez-y. Merci. Je vais parler des risques que j'ai rencontrés dans les institutions de sécurité où j'ai travaillé en tant que SSR du PNUD et par rapport à l'évaluation des obstacles. S'il y a des pays qui doivent faire l'évaluation d'obstacles et l'accès spécifique à certains domaines où il y a de l'opposition. Par exemple, si vous êtes dans un pays où la violence est habituelle, vous prévoyez déjà qu'il y aura des défis et ça peut être un risque. Une manière de l'atténuer, par exemple, c'est de planifier comment vous allez déplacer votre personnel des zones de conflit à la capitale, par exemple. Lorsque vous êtes en train de faire l'évaluation des obstacles. Si je peux vous donner un autre exemple d'évaluation des obstacles, si vos leaders sont en train de faire des entretiens individuels, les institutions de sécurité en général sont confrontées à plusieurs situations en même temps. Également, si vous allez à une structure de commande très, très solide et très stricte, le reste de l'équipe doivent parler avec certains leaders avant d'avoir l'entretien avec l'équipe de recherche. Et tous ces changements administratifs, pour garantir qu'il soit livré à toutes les autorités. Tout cela fait partie d'un entretien et c'est très utile pour le projet. Il y a une chose ou un risque qui peut-être n'est pas considéré très souvent et ce sont les délais d'approvisionnement. Nous avons vu que l'approvisionnement, par exemple, de services ou de biens peut prendre beaucoup de temps et ils doivent suivre un certain processus et des standards. Donc, une manière d'atténuer cela, c'est d'être bien préparé par rapport aux documents qui sont nécessaires, à ce qui est exigé de vous par rapport à l'approvisionnement. Et avoir tous ces documents préparés vous permet de faire les achats lorsque les fonds sont disponibles. Donc, ça, ce sont les meilleures pratiques que je peux partager avec vous sur la base du projet. Merci. Merci beaucoup, Suparva. Je crois que c'est vraiment extraordinaire de vous entendre parce que les risques qui ont impacté 90% de nos projets, vous les avez mentionnés. Malsa, allez-y. Merci, Deb. Merci, tout le monde. Quelques risques que j'ai vus dans la mise en place des projets sont liés au flux des fonds. Vous trouvez parfois que peut-être vos ressources sont destinées au gouvernement et il peut avoir plusieurs retards et peut-être si on passe de l'entité de coordination gouvernementale aux partenaires de mise en place. Et la bureaucratie dans les pays peut être un défi très significatif. C'est pour cela que lorsque vous faites les évaluations, les partenaires doivent considérer, ou il faut considérer quels sont les partenaires qui vraiment peuvent aborder et utiliser les ressources. Et si cela ne marche pas, au sein de l'ONU, dans les agences et le bureau du pays, cela peut vous aider aussi parce que l'agence de l'ONU avec laquelle le partenaire est en train de travailler pour soutenir tous les partenaires de mise en place et les processus. Parce que sans ressources, on ne peut pas faire rien faire. On ne peut rien faire. Et si nous avons des projets d'infrastructure, il y avait une question tout à l'heure, des projets de construction, je crois que ça, c'est un domaine à considérer. Si une agence n'a pas d'expérience, c'est toujours recommandable de avoir des capacités in-house avec pour s'assurer la qualité du processus. Et si c'est dans le gouvernement, impliquer le ministère adéquat qui est impliqué avec la construction pour qu'il puisse traverser le processus avec vous, pour faire la due diligence, etc. Nous savons que ça, c'est la principale question. Si le partenaire est dans un projet de construction, il faut impliquer le ministère pertinent ainsi que l'équipe dédiée d'ingénieurs et de sous-traitants pour surveiller et pour faire le suivi du projet. J'espère d'avoir pu mentionner les différents aspects. Deb a déjà mentionné les élections. Si un pays est dans un processus électoral, c'est vraiment un moment où les projets peuvent perdre leur cours, oui, parce qu'il y a beaucoup de violence électorale et donc cela peut affecter la mise en place du projet. Si un pays est dans un processus électoral, il faut faire la feuille de route, identifier les différentes situations. Si c'est dans un mois, par exemple, on va planifier la modification de ses activités. Si on va attendre, parce que si on attend aux élections, c'est vraiment le problème est déjà là. Donc, il faut planifier, connaître le contexte et savoir qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue pratique. Pour rester dedans la ligne de temps et le budget. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre séance. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour les questions. Nous allons bien sûr couvrir tout cela en détail lorsqu'on vous assiste avec la documentation du projet. On ne vous demande pas d'avoir une liste très, très longue de risques. Le but, c'est de considérer les risques centraux de votre projet. Ce que nous avons montré aujourd'hui est une liste de choses qui ont vraiment affecté plusieurs projets dans le premier tour du projet. Mais c'est bien sûr spécifique de chaque contexte, de chaque pays et de chaque projet. Donc, si cela ne correspond pas à votre situation, si vous pensez que ça n'a rien à voir, vous ne devez pas l'inclure dans votre liste. Encore une fois, merci Suparva, merci Martha pour ces exemples. Je voudrais remercier l'équipe parce que c'est vraiment impossible d'organiser tout cela sans eux. Nous avons vraiment fait beaucoup de travail et c'est le résultat de ce que notre équipe a fait pour garantir le succès de ce troisième tour et de faire le renforcement de capacité de manière précoce. Donc, merci. Nous avons une séance de GSU Premium demain et nous avons une séance de questions et réponses le 6 mai. Nous avons hâte de vous revoir dans les réunions individuelles tout à l'heure. Merci, au revoir. On se revoit.